France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Cela fera aujourd'hui 16 jours exactement que les Iraniennes et Iraniens sont dans la rue, manifestent et demandent la chute du régime. Et depuis vendredi surtout, ils se font massacrer, parfois à bout portant, par les forces de l'ordre. Au moins 500 morts, des milliers de blessés et d'arrestations. Cela fait 2 semaines que dans le monde entier, tous les yeux sont tournés vers l'Iran. Une révolte qui jouit d'un soutien quasi unanime, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Et l'espoir d'un retour du fils du Shah semble tellement irréel qu'on n'y croit toujours pas. Cela fait aussi 2 semaines que pour les Iraniennes et Iraniens de la diaspora, le temps s'est arrêté. Ils et elles ont cessé brutalement toutes leurs activités, posé leurs sacs et retroussé leurs manches. Ils informent, ils soutiennent, ils relaient, ils écrivent, ils pleurent, ils écrivent, ils parlent, ils répètent. Shirin Ardakani, Nazila Maroufian, Razal Golshiri, Armin Arefi ne dorment plus. On en avait déjà rencontré quelques-uns en 2022 au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Certains diront que ça a commencé là, le vrai début de la fin, si c'est vraiment la fin, et rien n'est moins sûr. Une révolte qui a, elle aussi, fait des centaines de victimes, mais qui a conduit à une victoire, plus ou moins passée sous silence, la chute du foulard, rempart ultime de la République islamique. Et oui, peu à peu, en Iran, sans que la loi ne change, une certaine tolérance s'est installée, avec des soubresauts, mais un mouvement irréversible. Les femmes qui le souhaitent sortent sans foulard, et souvent, il ne s'ensuit rien. Et celles qui ont envie de garder leur long tchador noir font aussi désormais ce qu'elles veulent. Aujourd'hui donc, on réécoute ces Iraniennes et Iraniens de la diaspora pour qui le temps s'est arrêté en 2022 comme aujourd'hui. Un récit de Pauline Chanu diffusé pour la première fois en septembre 2023.
Je m'appelle Ngaré, j'ai 37 ans. Je suis à l'origine montpelliéraine. Mes parents sont tous les deux iraniens. Et toute ma vie, j'ai entendu mon père à chaque mouvement qui pouvait se soulever en Iran, c'est la fin du régime. Cette fois, c'est la fin du régime. Donc c'est vrai que mon père a toujours eu un discours où il ne pouvait pas accepter que ce régime reste. Et ça devait être éphémère, temporaire. Quand j'étais petite, j'allais régulièrement en Iran avec mes parents, en grandissant beaucoup moins. Et puis, je dirais, ces dernières années, enfin, avant 2022, j'avais décidé d'y aller tous les ans, parce que ma famille me manquait. Et lorsque j'y suis retournée en mai 2022, là, ça a été pire que tout, parce que j'ai vu, pas seulement ma famille, tous les gens avec qui je pouvais parler, sans espoir. Ils avaient perdu tout espoir de vivre bien un jour, que le régime avait tant détruit le pays, tant, je dirais, de manière humaine que planétaire, en fait, parce que ce régime vraiment détruit aussi la faune, la flore, enfin absolument tout, le système écologique, en fait, tout est détruit par ce régime. Et il m'expliquait que même si aujourd'hui le régime partait, il y avait tant à reconstruire qu'on ne saurait même pas comment reconstruire le pays. C'était affreux d'entendre ça. Et de voir, en fait, le peuple résigné à se dire « on est là pour survivre ». Et ça, ça m'a terriblement éprouvée. Pour vous dire, lorsque je suis rentrée d'Iran, pendant 24 heures, j'étais au lit en train de pleurer. Oui, c'était terrible. Alors, le 16 septembre 2022, j'étais chez mes parents, à Montpellier. Mes parents parlent du soulèvement qu'il y a eu lors des obsèques de Mahsa Amini. Mon père, qui a toujours cette phrase qui dit « cette fois le régime s'est terminé », mais moi qui me dis, dans le fond, comme à chaque fois que j'entends mon père dire ça, « ouais, tu le dis à chaque fois, mais malheureusement, ils sont toujours là, ils sont soutenus par l'Occident, ils ont tellement de fric que de toute façon, on ne peut rien faire contre eux ». Et je me souviens d'une phrase qu'avait prononcée ma mère, qui disait « de toute façon, si on ne fait rien, bien sûr qu'ils ne bougeront jamais ». Et ça a fait tilt, je me suis dit, mais oui, elle a raison. Bien sûr que si on fait rien, il se passera rien. Et c'est peut-être ça qui m'a convaincue qu'il fallait faire quelque chose. Cette fois-là, non, je voulais pas rester sans rien faire. Donc les premières images que j'ai vues, ce sont les femmes lors des obsèques de Mahsa Amini, ces femmes kurdes qui ont enlevé le voile et qui ont crié « Jen Jion Azadi », donc « Femme, vie, liberté » en kurde. Ça a marqué le début du mouvement et effectivement, ces femmes, ce courage après la mort d'une des leurs, qui enlève le voile et qui crie en quelque sorte « Maintenant, stop, on va donner aussi une parole, une égalité aux femmes », c'était vraiment magnifique. Ça commence comme ça en Iran, et puis ensuite il y a eu une semaine après une grosse manifestation à Paris. Des personnes comme moi, des personnes lambda, tout le monde s'est soulevé. Et là j'ai compris qu'il était possible de faire quelque chose. Donc la révolution démarre, ça commence par des rassemblements dans la rue. Les pauvres, ils peuvent, c'est pas comme nous en France, ils peuvent pas rester 2 heures dans la rue à manifester. Ils viennent, ils manifestent, ils scandent pendant un quart d'heure ou peut-être moins, et puis hop, ils courent, ils s'enfuient pour pas se faire arrêter. Autre manifestation, ah oui, c'était le jeu des jeunes qui couraient derrière les différents mollahs avec leur turban. Ils leur faisaient tomber le turban. C'est diverses actions qui ont été faites par les Iraniens là-bas, vraiment héroïques. Vous vous rendez compte que les gestes héroïques en Iran, c'était des gestes aussi pacifiques que cela. Nous, en France, en Occident, ce qu'on essayait de faire, c'est de relayer, c'est-à-dire diffuser les vidéos qu'ils nous envoyaient, les photos qu'ils nous envoyaient sur ces diverses formes de manifestations. Par exemple, le 8 mars, plusieurs jeunes filles ont dansé sur Calm Down. Elles ont fait une super choré avec des croc-tops, évidemment pas de voile, c'était magnifique. Et puis, donc, les Iraniens, c'est ça qui est merveilleux, c'est que tout est interdit, mais ils se débrouillent pour pouvoir vivre comme nous. Le quotidien a complètement changé depuis le 16 septembre 2022. Ça a commencé par une grosse dépression. Pendant 6 mois, clairement, j'ai déprimé. Mais en étant très impliquée, très active, mais en donnant vraiment toute l'énergie que j'avais. Et en inquiétant toute ma famille et tous mes amis, à commencer par mon conjoint qui sont français et qui ne peuvent pas comprendre ou ressentir ce que je ressens, ce qui est normal. Il y a eu beaucoup de décès, malheureusement, mais il y en a qui ont été particulièrement douloureux pour moi. Il y a eu Mohamed Moradi, fin décembre, donc pendant les périodes de fêtes, à Lyon. Alors lui, c'est un Iranien qui habitait en France depuis quelques années et qui s'est suicidé volontairement dans le Rhône parce que ne sachant plus quoi faire pour essayer d'aider les Iraniens, il s'est suicidé et effectivement, je me disais, bah oui, je comprends. Lorsqu'il s'est suicidé, je disais à mon conjoint, je le comprends. Et je me souviens la tête de mon conjoint lorsque je lui ai dit ça. Et effectivement, je comprenais Mohamed Moradi parce que depuis 3 mois, à ce moment-là, j'étais engagée et je voyais, je dirais, tous les obstacles qui se posaient à nous. Et puis je me disais, mince, est-ce qu'on va y arriver ? C'est quoi ce monde de pourri ? Où il n'y a que l'argent qui compte, et peu importe les vies humaines, et c'est difficile pour moi de vivre dans ce monde-là. Il y a pas mal de moments comme ça qui me faisaient terriblement souffrir, ouais. Au bout de 6 mois, 7 mois, j'ai juste changé mon état d'esprit en comprenant que tout ça allait être très long, et que pour pouvoir, moi, tenir le cap et ne plus être dans cet état d'épuisement et de déprime dans lequel j'étais les 6 premiers mois, il fallait que je reprenne un peu ma vie en main. Et aussi, c'est ma mère qui me disait, tu n'as pas le droit de sombrer dans une déprime, alors que eux, là-bas, ils souffrent. Depuis 1 an, il y a pas mal d'images qui sont passées, et beaucoup dont je pourrais parler. Mais si je devais en retenir une, c'est cette image qui est sortie au tout début de la révolution. Vous avez 3 femmes habillées en noir, pieds nus. une jupe et un haut assez court. On voit un bout de leur peau, dévoilé, évidemment. On voit que ce sont des danseuses parce qu'elles ont une position très gracieuse, chacune d'entre elles. Et elles tiennent, chacune d'entre elles, un drapeau de la couleur du drapeau iranien, donc vert, blanc et rouge. Et sur chacun des drapeaux, il est noté pour l'une « femme », pour l'autre « vie », pour l'autre « liberté ». Donc en farsi, Zan, Zendegi, Ozodi. Et elles sont devant la place Ozodi, donc la place de la liberté en Iran. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, depuis un an, quand on se quitte, on se dit souvent à la prochaine sur la place Ozodi. Quand on me dit hey, quand est-ce que tu te maries, je dis toujours ben, je me marierai en Iran, vous serez tous invités, on fêtera ça sur la place Ozodi en Iran. Donc cette image, elle est synonyme d'espoir et d'avenir pour l'Iran et j'ai hâte au jour où on pourra se photographier de la même manière. Voilà.
Je m'appelle Shirin Ardakani, je suis avocate en droit des étrangers et en droit pénal. Je suis née à Paris et je suis d'origine iranienne. Je n'ai plus aucune certitude sur ce pays puisque c'est un pays que je croyais connaître et en réalité je me rends compte que j'ai appris à découvrir ce pays. J'ai pu me balader dans les rues de Yazd, manger des glaces à la rose à Ispahan, mais en réalité, j'avais qu'une connaissance superficielle de ce pays. J'ai pu, je pense, apprendre ce que c'était vraiment que l'Iran et surtout de rencontrer la sensibilité du peuple iranien. Le 16 septembre 2022, Jina Mahsa Amini, donc iranienne d'origine kurde, une jeune femme de 20 ans dont la vie a été volée pour un vol mal porté. Et ça a été, je crois, le détonateur pour non seulement les Iraniens, mais plus largement pour la communauté internationale, un certain nombre de militants des droits humains. En tout cas, ça a été mon détonateur. Et donc, effectivement, mon réflexe, c'est de prendre mon téléphone. Je vais appeler mes anciens collègues, ceux avec lesquels j'ai pu travailler lorsque j'étais d'ailleurs en cabinet international, pour rapidement mettre en place des actions juridiques. Alors, il y avait énormément de photos, de vidéos, parfois des vidéos difficiles, où on voyait effectivement des manifestants qui prenaient des tirs. Je me souviens, par exemple, d'une jeune femme qui était une manifestante, et on voit à un moment, sur une vidéo qui nous parvient, qu'elle se fait battre par les Bassidis, donc qui sont ces miliciens, en réalité, pro-régime, et qui frappent très violemment, à coups de matraque, eh bien, cette jeune manifestante. Quand on voit ces images, en tant que juriste, on se dit que ça ne peut pas rester impuni. Et donc le réflexe, ça va être effectivement de garder les preuves qui nous arrivent, de les mettre en stock, de les archiver pour le jour où elles vont servir judiciairement et pour le jour où, je l'espère, un procès pourra voir le jour et pour que ceux qui doivent en répondre devant la justice puissent être mis en cause. Alors concrètement, hein, depuis l'automne 2022, mon premier réflexe le matin quand je me lève, c'est de regarder mon téléphone portable et cette obsession iranienne va m'amener tous les jours à consulter de manière frénétique mon fil d'actualité pour voir si la liste macabre des exécutés ne va pas s'allonger. Et à mesure que la liste s'allongeait, je me disais chaque jour qu'il faut encore que j'en fasse plus d'une certaine façon, parfois au mépris d'ailleurs de ma vie privée. C'est un travail qui de toute façon doit être fait. Les fichiers qui se trouvent sur mon ordinateur, c'est l'étendue des atrocités qui peuvent être infligées à l'espèce humaine. Vous avez des aveux forcés, des enlèvements, des viols en détention, des tortures psychologiques, par exemple le fait de placer quelqu'un à l'isolement dans des cellules de 2 mètres carrés, sans possibilité par exemple de se tenir debout, avec une privation de lumière naturelle, avec des interrogatoires qui durent plus de 10 heures. Et ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans mes fichiers Excel. Alors évidemment, après un an, à force de voir effectivement ces images, de les classer dans un fichier Excel, on peut aussi s'interroger sur le rapport aussi qu'on peut avoir à ces atrocités, puisque le risque, c'est de devenir insensible. Ouais. Ouais, franchement, ouais. En fait, pendant un an, j'ai vu ça toute la journée. Et en fait, on n'a jamais pris le temps, parce qu'en fait, on est tellement dans le rush que j'ai même pas percuté, qu'en fait, c'est... ouais, c'est dur, quoi, de voir ça. Pardon. Je vous montre juste de loin, mais en fait, des images comme ça, on en reçoit 50 par jour. Par exemple, là, pour reprendre cette photo, vous avez effectivement ces corps qui sont complètement déchiquetés par des impacts de balles, et ce sont effectivement des blessures qui ont été infligées à des manifestants dans la rue par les forces de sécurité. Parfois, on peut avoir des photos qui montrent des stigmates infligés lors d'interrogatoires où les interrogés sont soumis à des actes de torture. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Hajis Najafi, donc qui est cette jeune iranienne qui était allée manifester. Alors, il s'avère qu'elle sera touchée de 6 balles, une dans le cœur, une dans la nuque, plusieurs dans le ventre. Cette image, en réalité, que vous voyez, c'est une jeune femme pleine de vie, de 22 ans, très apprêtée, qui est à l'aise dans son corps, dans sa féminité, dans sa sexualité, en train d'effectuer un geste de danse, donc, et en totale contradiction avec l'image que les religieux et que la République islamique voudraient imposer aux femmes, dans cette logique de soumission d'une femme qui serait une femme soumise, enfermée. C'est pas du tout ce que je vois quand je vois l'image de Hajis. Je vois justement une femme qui a envie de découvrir l'horizon des possibles, extrêmement connectée. Et c'est tout ce que le régime islamique honnit le plus. Et c'est ça qui est intéressant dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'est que à la logique de la mort, c'est le droit de vivre qu'opposent ces jeunes manifestants. C'est le droit de vivre, c'est le droit au bonheur, c'est... Franchement, c'est du gâchis. Je sais aujourd'hui que je ne pourrai pas retourner en Iran tant que le régime n'aura pas changé. Ça, c'est une certitude. Et ça induit un certain nombre de sacrifices. Mon père est encore en Iran et mon père est âgé. S'il arrivait quelque chose par malheur à mon père, je ne pourrais pas être là. Et en même temps, c'est le prix à payer, et si tout le monde prenait sa part, eh bien peut-être que ça irait plus vite. Mais une révolution, ça se fait évidemment pas en un printemps, et donc je continuerai de faire ce que je fais et de me battre autant de temps qu'il faudra, parce que si ce mouvement échoue, ce serait un recul considérable pour les femmes iraniennes. Et donc il y a vraiment cette angoisse que la lutte n'aboutisse pas et qui nous englobe tout entier. Et on se dit, mais c'est pas possible, il faut que ça aboutisse.
Je Je suis Alireza Taïeb, je suis en France depuis 1991. J'avais 22 ans, donc ça fait 32 ans que je suis ici. Donc j'ai passé plus de ma vie ici en France qu'en Iran. En fait, depuis un an, quand ça a commencé le mouvement, je me suis consacré pendant 7 mois, matin et soir, à ce mouvement. Tous les jours, à organisation de manifestations, à regarder sur les chaînes qui étaient accessibles pour voir ce qui se passe en Iran. Quasiment, on ne dormait pas. On restait en réunion avec des amis sur des groupes WhatsApp, des groupes Signal, des groupes jusqu'à 3-4 heures du matin. Et après, le matin, il fallait se réveiller pour aller travailler. Mais j'avais pas la tête pour aller travailler. C'est quelque chose qui vous prenait toute votre vie. J'ai quitté l'Iran, mais l'Iran m'a jamais quitté. Donc voilà, ce mouvement, vraiment, ça m'a atteindre vraiment en profondeur. C'est que aujourd'hui, je suis capable de tout faire pour que ça change en Iran. Même s'il faut mettre à côté mon travail, je le ferai encore et encore. Voilà. Et pourquoi encore cette fois-ci plus que les autres fois? Parce qu'aujourd'hui, ils tuent nos enfants. Ils ont touché des gamins. Des gamins de 10 ans, des gamins de 2 ans qui sont morts pendant la manifestation parce qu'ils étaient là, ils étaient par erreur. Et consciemment, ils ont frappé les enfants. La plupart des jeunes qui ont été tués, c'était entre l'âge de 16 ans à 19 ans, pas plus. C'était des gamins qui avaient l'espoir de vivre, qui voulaient juste la liberté tout court. Et face à ces images, vous ne pouvez pas rester bras croisés. J'ai commencé par participer dans les manifestations, le premier qui a été au Trocadéro, ensuite était à la République. En signe de solidarité avec les femmes iraniennes, je me suis rasé la tête devant tout le monde. Et ce jour-là, j'ai brûlé le foulard. Et depuis ce jour, j'ai participé à l'organisation, ou bien financièrement, ou bien matériellement. J'ai apporté ce que je pouvais apporter pour faciliter ces manifestations. C'était mon rôle. Et puis parfois, donner des... 2 ou 3 slogans en français, peut-être 1 ou 2 discours à Neuf-le-Château, là où l'habitait Khomeini à l'époque. Voilà. C'est tout ce que je pouvais faire à l'heure actuelle, parce que tout ce qu'on peut faire en France ou ailleurs, à l'étranger, ça ne reste que ça. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. J'ai mon frère qui est en Iran avec sa femme, et j'ai 45 cousins-cousines directs qui sont en Iran. Donc je suis en contact tous les jours avec. Et le résultat est le même. Quand je discute avec eux, ils me disent « Vous, à l'étranger, vous ne comprenez pas ce que nous sentons. » Parce que pour comprendre ce qui se passe en Iran, il faut aller en Iran. Tant que vous n'êtes pas sur place, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Par exemple, sur Instagram, on voit qu'il y a tel endroit a été fermé parce qu'il n'a pas respecté les djabs. C'est un seul endroit, mais tous les autres endroits, ils sont ouverts. C'est la politique de propagande. Il y a un restaurant qui est fermé, mais milliers d'autres sont ouverts. Par exemple, il y a 2 jours, dans un parc à Téhéran, c'était soirée de Omar Khayyam. C'est notre grand philosophe, notre grand mathématicien, qui écrit des poèmes, que c'est quelqu'un d'athée, épicurien de surcroît. Et les gens dansaient jusqu'à l'aube, ce qu'on ne voyait pas auparavant. Donc une fois qu'ils ont goûté à la liberté, c'est difficile de le reprendre. Le vent de la liberté a commencé à souffler sur l'Iran. C'était l'année dernière, je pense que c'est au mois d'octobre, novembre, de mémoire, je ne me rappelle pas très bien, date exacte. Mais celui-là, Kian Pourfalak, m'a vraiment anéanti. Kian Pourfalak vient d'une région de Izé, sud-ouest de l'Iran. Ma famille vient de là. J'ai passé toute mon enfance dans cette région-là. Mes grands-parents étaient agriculteurs et éleveurs. Et j'ai passé l'été là-bas, avec eux, dans un village qui n'avait pas d'électricité, qui n'avait pas d'eau chaude. J'ai passé de meilleurs moments de ma vie. Je me rappelle le jour de sa mort, j'étais à Arcueil. Tout d'un coup, je regardais mon Instagram. J'ai vu les images de Izé. Et je me suis arrêté, j'ai commencé à pleurer. C'était vraiment quelque chose de terrible. Un gamin de 10 ans s'est fait tuer. C'était Kian Pourfalak. Sa mère a caché le corps de son fils dans sa maison en mettant de glaçons sur le corps jusqu'à demain matin pour l'enterrer dignement, de façon traditionnelle, pour que le gardien ne vienne pas le chercher pour le faire disparaître. Sans ça, on l'aurait empêché de le faire. Ce petit garçon est devenu symbole. Aujourd'hui, on parle Dieu de l'arc-en-ciel, parce qu'il aimait l'arc-en-ciel, il dessinait arc-en-ciel. Et quand il parlait, il disait « au nom de Dieu, arc-en-ciel ». Arc-en-ciel, pour nous, aujourd'hui, ça devient Kiempefalak. Le premier objectif, c'est de faire disparaître et de mettre dans la poubelle de l'histoire ces régimes islamiques. Mais beaucoup de gens qui sont en diaspora iranien, qui sont ici ou aux États-Unis ou ailleurs, d'un côté ils disent qu'on est républicain, de l'autre côté on dit qu'on est monarchiste, monarchie constitutionnelle, on est pour Prince Reza Pahlavi, on est l'autre qui est pour Rajavi, et l'autre qui est pour ça. Ils n'ont pas su se fédérer et de voir l'objectif qui est de faire disparaître ce régime islamique. Ils n'ont pas pu faire ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Et c'est la première erreur des diasporas iraniens. Il faut que ce régime part. Ensuite, s'occuper de l'avenir. Il faut faire étape par étape. Quand vous voulez construire une maison, d'abord vous faites les fondations. On a fait les manifestations, on a crié « mort à la République islamique », on a dit tout ça. Et à la fin, rien. Rien n'a changé. On n'a rien obtenu. Après, je me suis dit, pourquoi pas on lance un mouvement de dire que voilà, nous les Iraniens qui sommes à l'étranger, on fait l'acte à l'inverse, de retourner en Iran, d'aider notre compatriote et de faire le nécessaire. Parce qu'il y a 8 millions d'Iraniens à l'étranger, et beaucoup de gens disent que pour qu'une révolution soit réussie, il faut que 3% des gens soient dans la rue. Il suffit 1 million qui aille en Iran, en même temps, ça suffira. Donc, c'est déjà 3% qui est dans la rue. Donc, je commence à parler avec tout le monde. Dans beaucoup de réunions que j'y vais, je commence à dire, peut-être que je vais réussir. Et dans ce cas-là, je vais retourner en Iran et je vais continuer mon combat ici, en Iran. Ça peut être risqué, mais je dois prendre ce risque en même temps. Voilà.
C'était Iranien de la diaspora, comment le temps s'est arrêté, un reportage de Pauline Chanu réalisé par Emmanuel Geoffroy. Un grand merci à Bar Makoï, à Ariane Gray, à Jean-Pierre Perrin, à Ella Navidi, à Oura Michekari, à Atoussa, à Yasmine et à Amir, avec une pensée très particulière à la mémoire de Farangis Habibi. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Sandrine Chaperon et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.